Donc, il s'est produit une guerre en 2006 entre Israël et le Liban, vous en rappelez, ça a duré à peu près un mois, et c'était, je pense, au mois de juillet. Et il s'est trouvé en même temps un événement qui est passé comme ça, inaperçu, et ça s'est passé en Irlande. Il y avait une personne qui était en train de travailler avec une pelleteuse. Et il s'est produit un événement qui a été relaté par la chaîne de télévision CNN. Et ensuite, il y a eu des articles qui ont été écrits. Je vais vous lire ici un petit article. Un manuscrit du premier millénaire, ouvert au psaume 83, a été trouvé dans une tourbière irlandaise. Ce vieux livre a été découvert par un ingénieur qui creusait dans la tourbe avec une pelleteuse. Ce manuscrit d'une vingtaine de pages date du 9 ou 11e siècle et un manuscrit médiéval qui était dans un état étonnant dans la tourbe. Hein. Et les chercheurs vont passer des mois à l'analyser avant de le montrer au public. Il y a deux hasards qui rendent cette découverte surprenante. Premièrement, c'est quasi impossible que quelque chose d'aussi fragile ait pu se conserver dans une tourbière. Deuxièmement, ce manuscrit, c'est étonnant qu'il ait pu être vu et déterré avant qu'il soit détruit par la pelleteuse. Alors, plusieurs experts ont examiné ce document et c'est un document qui est écrit en latin et qui était ouvert au psaume 83. Alors, vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et là, Dieu nous a montré un psaume qui est très étonnant et qui est un psaume prophétique. Alors, je vais vous relire le psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre eux ce que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Gizon. Ils ont été détruits à Andor. Ils sont devenus du fumier pour la terre, et tous leurs princes, comme Zebab et Tsalmanouna, car ils disent « Emparons-nous des demeures de Dieu ». À la flamme qui en... Mon Dieu, rend-les semblables au tourbillon, au chaume qui emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes, poursuis-les ainsi dans ta tempête et fais trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Alors, vous voyez, ce psaume, il passe un peu inaperçu. C'est, en général, ce n'est pas le genre de psaume qu'on va lire tous les jours, mais bon. Hein? Et voilà, on voit que là, il y a des choses extrêmement importantes et qui se déroulent sous nos yeux actuellement. Et on va en parler avec détail. Alors, dans ce texte, je vais reprendre un petit bout du texte traduit par Chouraki. Oui, voici tes ennemis font tumulte, Tes haineux lèvent la tête contre ton peuple, ils rusent en secret. Ils conspirent contre tes trésors. Ils disent, allez, nous les effacerons en tant que nation, le nom d'Israël ne sera plus rappelé. Oui, ils se concertent d'un seul cœur, contre toi, ils tranchent un pacte. Alors, on voit que dans ce texte, l'objectif des nations qui se concertent, c'est de faire disparaître Israël en tant que nation. En quelque sorte, détruire l'âme d'Israël. Et c'est bien l'objectif de toutes les nations qui actuellement encerclent Israël. Et depuis quelque temps, nous voyons les révolutions arabes, soi-disant spontanées, mais en réalité, vous savez bien qu'il y a des mains là derrière, et qu'il faut de l'argent pour mener de telles révoltes et de telles guerres. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'armement, et il y a des gens qui sont derrière ces guerres. Alors, il va falloir situer les personnages. On nous parle dans ce texte d'Édom, d'Ismaël, d'Amalek, et puis d'autres. Alors, je voudrais vous rappeler un peu de qui il s'agit. Ésaü, le frère de Jacob, est nommé Édom. Et vous savez que c'est un fils qui a été déshérité à cause de la ruse de Jacob. Vous vous rappelez de ça. Il a perdu son droit d'aînesse à cause de sa chair. Il ne s'intéressait pas au chemin spirituel de son père Isaac. Ça ne l'intéressait pas. Et aussi de son grand-père Abraham, parce qu'il y a une affaire familiale. Mais normalement, vous voyez, celui qui avait le droit d'aînesse, c'est celui qui prenait la succession spirituelle du père de famille. L'aîné, que ce soit d'ailleurs dans les familles juives ou dans les familles arabes, l'aîné, c'est celui qui prend la succession spirituelle du père. Et Ésaü, ça ne l'intéressait pas. Donc, il a préféré manger plutôt que de jeûner et de prendre cette succession. Donc, il est déshérité. Par ailleurs, on a un deuxième personnage, Ismaël. Ismaël est aussi un déshérité. Vous voyez, il a été chassé à cause d'Isaac. Vous vous rappelez de ça? Et il est devenu un homme du désert. C'est devenu un chasseur dans le désert. Très habile. Et puis, finalement, il ressemblait à son père Abraham. Quand on étudie les documents juifs, on se rend compte qu'Ismaël était très aimé de son père, Abraham, et puis il était chasseur, comme son père était un chasseur aussi. Abraham vivait dans le désert. Et Ismaël n'a pas rejeté la religion de son père, mais voilà, on se trouve avec deux personnages, Édom et Ismaël, qui sont déshérités. Alors, quelqu'un qui est déshérité, c'est quelqu'un qui va avoir de l'amertume dans son cœur. Même si c'est de sa faute qu'il est déshérité. Alors, par ailleurs, il nous est dit que Ismaël était un homme indomptable. Difficile à vivre. Et la prophétie concernant Ismaël nous dit « Il sera comme un âne sauvage. Sa main contre tous et la main de tous contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Et c'est vrai que, on le tient, moi j'ai écouté une fois un prédicateur algérien, donc d'Ismaël, qui était converti, Et il disait, effectivement, les Arabes, ce sont des gens qui aiment la violence. Hein, ils sont comme ça, et il n'y a jamais moyen de faire la paix avec. Ils sont comme ça. Ils sont en face de tous leurs frères, et voilà. Alors, Édom et Ismaël, vous voyez, c'est deux personnes qui ont des points communs. Ils aiment la chasse. Ils sont virils, tous les deux. D'ailleurs, regardez la religion islamique, c'est une religion virile. Les hommes dominent. Hein? Ils sont virils, ils sont prêts au combat. Ils sont tous les deux déshérités. L'un est né de la chair. Vous vous rappelez ce texte? Je peux vous le relire si vous voulez. Hein? Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Donc, l'un, dans ces deux hommes, l'un est né de la chair, et l'autre préférait la chair. Vous voyez? Et on voit dans l'Ancien Testament, et je vous ai dit que souvent ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament est prophétique de ce qui arriverait à la fin des temps. Et Édom, Ésaü, s'est marié à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chercher des femmes de la tribu d'Abraham, pas du tout. Il est allé chercher des femmes cananéennes, et voyant que ça ne déplaisait fortement à ses parents, il est allé chercher la fille unique d'Ismaël. Donc Édom s'est marié avec la fille unique d'Ismaël. Je vous rappelle qu'Ismaël a eu 12 garçons et une fille. Israël a eu aussi 12 garçons et une fille. C'est vraiment parallèle, tous les deux. Alors, nous voyons que le mariage entre Édom et Ismaël, il y a un mariage là. Eh bien, c'est un mariage charnel, un mariage de raison, si vous voulez. Hein, et ils ont comme intérêt commun la haine de Jacob. C'est vraiment ce qui les unit ensemble. Ils ont la haine de Jacob. Alors, Ésaü s'est moqué de Dieu en prenant les épouses cananéennes, mais il l'a fait délibérément, parce que c'était ses goûts. Et maintenant, je vais vous donner une autre chose, une autre information. C'est que lorsque le temple a été détruit en l'an 70, Rome était devenue pour les Juifs comme Babylone, parce que Babylone a détruit le temple. Deux nations ont détruit le temple, Rome, Babylone et Rome. Et ils avaient une telle haine contre Rome qu'ils pouvaient dire des choses contre Rome sans citer le nom de Rome, parce qu'il y avait l'armée qui était là. Donc ils ont appelé Rome Édom. Ils ont surnommé Rome Édom. Et vous voyez que dans l'esprit des Juifs, l'Europe qui est née de Rome est spirituellement Édom. Et nous voyons actuellement un mariage qui se fait entre Ismaël et l'Europe, entre Ismaël et le monde occidental. C'est la prophétie qui se réalise actuellement. Alors c'est très important de comprendre ces choses, et je vais vous en donner des détails, parce que c'est à la fois de la géopolitique, c'est de l'information, et de l'étude biblique. Parce que tout est lié. Moi, je vous assure, quelquefois, quand je lis la Bible, je lis le journal. Hein, parce que les choses se déroulent devant nous. Regardez ce qui se passe actuellement. Hein. Alors, il faut savoir aussi que dans l'Empire de Rome, qui donc représente Ésaü, Édom, il y a un descendant d'Ésaü qui s'appelle Amalek, et que Amalek est celui qui a toujours combattu, mais à mort, Israël. Le détruire pour le plaisir. Ça, c'est Amalek. C'est un groupe de personnes qui sont viscéralement antisémites. C'est dans leur trip, et ces gens-là vont par tous les moyens travailler l'opinion publique pour que les peuples soient amenés à avoir de la haine contre Israël pour pouvoir les détruire. Ça représente une lutte perpétuelle qui se renouvelle de génération en génération parce que la parole de Dieu le dit. Je vous lis dans une parole du livre de l'Exode, hein, il est dit « Parce que la main a été levée sur le trône de Dieu, donc ça c'est la main d'Amalek, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Alors depuis l'époque du désert, il y a toujours eu des ennemis mortels contre Israël, toujours. Et de génération en génération. Et certainement le plus violent d'entre eux a été Hitler. Mais je vous informe que lors d'un de ses discours, Ahmadinejad a dit qu'il descendait d'Amalek. Dans un discours. Donc ça veut dire qu'il connaît très bien les Écritures, il sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien ce qu'il prépare. Alors, l'histoire nous a montré qu'il y a eu de l'oppression contre les Juifs de génération en génération. Et cette partie du monde qu'est l'Occident représente l'ancienne Rome, surtout ici l'Europe, mais à l'époque, Rome prenait toute la Méditerranée. Et la nouvelle Rome, qui est en train de se créer, sera également étendue autour de la Méditerranée. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une alliance entre les pays qui sont au nord de la Méditerranée et ceux qui sont au sud de la Méditerranée. Or, ceux qui sont au sud, ce sont les peuples arabes et musulmans. Et donc, on voit assister, je vais vous en donner des détails, à un mariage entre les populations arabes et les populations du nord de l'Europe. Alors, c'est un mariage qui a des intérêts économiques, surtout pour les Européens, parce que ça leur ouvre des marchés, et des intérêts spirituels pour les musulmans, parce que les uns voient le moyen d'obtenir le pétrole, et de vendre des armes, et les autres voient en Europe une immense région puissante, riche, qui s'offre comme champ d'islamisation. Alors, je vous rappelle un petit morceau du psaume 83. « Ils forment contre tes peuples des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges, « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. » Alors, je vais vous donner une information qui est assez peu connue, mais qu'il y a des pourparlers depuis à peu près l'époque du général de Gaulle. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais ce que je vais vous dire n'est pas connu. C'est que, au moment de la guerre des Six Jours, la France livrait des armes à Israël. Et Et au moment de la guerre des six jours, De Gaulle a fait l'embargo. C'est-à-dire qu'il a voulu arrêter la livraison des armes. Et faisant cela, il a attiré sur la France une malédiction. Ceci dit, nous savons, mais je ne vous dirai pas comment je le sais, mais je le sais, que pendant un an et demi, l'armée française a continué à livrer des armes, sans que De Gaulle le sache. Le résultat, c'est que, ça se passait en 67, en 68, il a eu droit à mai 68, et en 69, c'était fini. De Gaulle n'était plus là. Donc ce grand homme, vous voyez, il a démarré là quelque chose pour des intérêts économiques, il a choisi les Arabes contre Israël. Et toute la suite continue comme ça. Alors, il y a des pourparlers qui sont très avancés et qui portent le nom d'Eurabia. Eurabia. Ou encore l'Eurabie. Donc vous voyez la combinaison des deux, l'Europe et l'Arabe. L'Eurabie. Et il y a un livre qui a été écrit par une historienne qui est née en Égypte et qui s'appelle Eurabia, l'axe euro-arabe. Alors c'est assez long, ça fait 348 pages, mais c'est un livre qui est très intéressant à lire. Alors je vais vous lire un petit commentaire qui a été fait sur ce livre. Eurabia, l'axe euro-arabe, décrit cette nouvelle étape, ou plus précisément, la mise en place, sous couvert de partenariats, entre les pays européens et les pays arabes, les structures favorisant l'islamisation de l'Union européenne. Il faut distinguer l'Europe de ses dirigeants. Les peuples européens n'ont jamais accepté ou ratifié l'axe euro-arabe ou euro-islamique, mais les milieux dirigeants ont passé outre. Avec des motivations multiples et variées, les intérêts économiques, les souvenirs de l'époque coloniale ou les sentiments de culpabilité liés à cette époque. L'espoir de créer une Europe indépendante des États-Unis, l'illusion d'un dialogue interreligieux, la peur du terrorisme. L'axe euro-arabe est né en 75, lors du premier choc pétrolier. Diverses associations pro-arabes militent alors pour un dialogue euro-arabe. Elle se regroupe au sein d'un comité européen dont le siège est à Paris et qui publie un journal appelé Eurabia. Deux thèmes immédiats, le soutien à la cause palestinienne et l'hostilité envers les États-Unis, principal allié d'Israël. Mais à l'arrière-plan, il s'agit de mettre en valeur des liens de voisinage et un héritage culturel commun entre les peuples des deux rives de la Méditerranée. Ça implique d'abord, selon un responsable belge du comité qui s'appelle Tils de Clercq, vous devez connaître, une politique à moyen et à long terme afin de réaliser une coopération économique par la conjugaison de réserves de main-d'œuvre et de matières premières arabes, d'une part, de la technologie du management européen, d'autre part. En d'autres termes, l'Europe doit faire venir des immigrants arabes pour avoir accès au pétrole. En outre, toujours selon M. De Clercq, l'Europe doit conditionner ses opinions publiques en faveur des Arabes et de l'islam. S'ils veulent coopérer avec le monde arabe, les gouvernements européens et les dirigeants politiques ont l'obligation de s'élever contre le dénigrement des Arabes dans leur organe d'information. Ils doivent réaffirmer leur respect envers la contribution millénaire des Arabes à la civilisation universelle. Alors, c'est très long, mais vous pourrez le lire. Mais ça veut dire que si l'Union européenne veut pouvoir disposer du pétrole, donc de l'énergie, eh bien, elle doit favoriser l'islamisation de l'Europe. Et ça va expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des choses qui, jusque-là, étaient inexplicables. Alors, tout cela montre pourquoi les Européens ont adopté un comportement de soumis. Et le terme qui est pris par l'auteur, c'est de dhimmi. la dimitude, c'est s'auto, s'auto-contrôler, si vous voulez, pour ne pas aller contre l'islam, contre les Arabes, etc. Surtout, ne pas donner d'informations favorables à Israël. Hein, toutes ces choses-là. Et donc, c'est un accord politique concernant Israël. Il est entendu que les gouvernements européens doivent avoir la même position que les peuples arabes sur le sujet d'Israël. C'est quelque chose qui est clair. Hein. Par conséquent, l'Europe soutient systématiquement la Palestine et considère qu'Israël doit retourner dans les frontières indéfendables de 1948 et tout est fait en Europe pour faire passer dans l'opinion publique l'opinion arabe. Faire passer Israël pour une nation belliqueuse, une puissance occupante d'un territoire qu'elle doit rendre. Alors, tout cela est canalisé par l'islam extrémiste. M'excuse, hein. J'ai de la concurrence. On continue. Alors, cette position est canalisée par l'islam extrémiste qui ne va pas provoquer d'attentat en Europe tant que cette Europe prend les bonnes décisions par rapport aux Arabes et à Israël. Donc tout est canalisé comme ça. Et donc c'est le terrorisme qui est derrière, qui fait que les Arabes ont pris en quelque sorte la main sur les gouvernements européens. Alors, c'est comme ça, et vous pouvez le constater. Et le pire de tout, c'est que on a surpris le président Jacques Chirac. À l'époque, il était président. Dans une conversation, bien sûr, ça n'était pas dans un discours, mais c'était dans un hôtel. Bon, il était en train de prendre un verre, certainement, avec des gens, etc. Et il a dit que le Quai d'Orsay avait programmé la disparition d'Israël en tant qu'État pour 2020. Eh oui. Donc, la France sait ce qu'elle fait, vous savez, quand il y a des décisions comme ça. Et ça, ça a été relaté dans un article écrit par le pasteur Jean-Marc Taubois, que vous connaissez sans doute, hein, dans Keren Israël, sa revue. Ça a été écrit en 2006. En résumé, après des contacts qui ont débuté en 70, donc juste après De Gaulle, vous savez, ça a commencé avec De Gaulle. Hein. Il y a eu ce dialogue euro-arabe. On s'est engagé à soutenir la politique arabe contre Israël et on obtenait en échange des accords économiques. Ainsi est né Eurabia, ayant pour but de créer un mouvement favorable aux Arabes et dont l'objectif final est la destruction d'Israël. Alors, ça, maintenant, je vais vous montrer des choses qu'on n'explique pas si on ne sait pas ça. Il y a une invasion en Europe par des populations arabes, de plus en plus. On voit que ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est voulu. Il y a une politique anti-israélienne en Europe et qui veut absolument voir le retour des Arabes en Palestine et la disparition d'Israël. Il y a une très grande désinformation en Europe contre toutes les actions d'Israël. Par exemple, on voit dans les journaux télévisés des photos, on voit ces pauvres Arabes qui sont détruits par des bombes, etc. Et en fait, c'est pas du tout la bande de Gaza, ce qu'on vous montre, c'est la Syrie. Des photos qui viennent de Syrie. Ou alors, on vous a montré, par exemple, un enfant qui avait été tué par une balle. Hein, et puis on dit c'est un juif qui a tiré, mais pas du tout, c'est un arabe qui a tué un enfant, et on le voit dans le film, mais seulement ça on ne le dit plus après. Donc on conditionne comme ça la population. Et alors il y a le transfert des techniques dans les domaines guerriers. Nous fournissons des armes aux Arabes. Vous voyez, on n'a pas d'argent en France, on a des dettes jusqu'au-dessus des oreilles. Qu'est-ce qu'on va faire? On valiserait des armes en Syrie. On n'a pas d'argent, on fait ça. On n'a pas d'argent, on est allé faire la guerre en Libye. Ça nous a coûté très cher, hein. Faut pas croire, hein. Le déficit français, il vient aussi de ça, hein. Alors, on n'en parle pas. Hein. C'est comme ça. Alors, l'expansion de la culture arabe en Europe et la sauvegarde des musulmans contre toute tentative d'assimilation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les musulmans ne s'assimilent pas. Au contraire. Hein? La culture des immigrantes est exportée dans les pays d'accueil. Les Européens proclament la grandeur de la civilisation islamique. Prenez les émissions qui vous parlent de l'histoire de l'Europe. De plus en plus, on dit qu'il y a une bonne partie de l'Europe qui vient de l'islam. Et d'ailleurs, dans le traité de création, comment ça s'appelle là, hein, dans l'Europe, on a fait il n'y a pas longtemps, pas une charte, mais on a fait un document. Où Jacques Chirac et d'autres encore ont refusé qu'on fasse mention de l'origine chrétienne de l'Europe. Ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? À cause de Rabia. Bien sûr. Ils sont tenus. Ils sont ficelés. Si vous voulez du chauffage, vous êtes obligé de penser comme ça. C'est comme ça. Alors, ça explique l'incompréhensible, hein. Par exemple, ça va expliquer pourquoi nous, Européens, nous avons abandonné les chrétiens arabes du Liban. Le Liban était un pays chrétien, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, qui est-ce qui gouverne au Liban? C'est le Hezbollah. On a encouragé l'islamisation de l'Europe. Et on s'oppose, nous, en Europe, à considérer que Jérusalem, même dans sa partie juive, puisse être capitale d'Israël. C'est grave, vous savez, même les Américains, si un bébé américain naît à Jérusalem, sur son carnet de naissance, il n'est pas marqué où il est né. C'est pas reconnu. C'est comme ça. Et donc, le rabbia est devenu une réalité. Malgré nous, hein, ce sont les dirigeants, hein, qui ont fait ça. Mais il y a une question qui se pose, pourquoi l'Europe s'est-elle lancée dans cette folle aventure? Eh bien, parce que c'est la réapparition progressive de Rome qui doit prendre tout le tour de la Méditerranée. C'est le mariage d'Édom et d'Ismaël, avec comme garçon d'honneur, attendez, il y a un garçon d'honneur qui s'appelle Amalek. Mais c'est un mariage charnel, et c'est un mariage de raison qui finira par une dispute, parce qu'il y aura la haine, il y aura la guerre civile, et c'est le fruit de la chair. Je vous rappelle les fruits de la chair, hein. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc. Tout ça, c'est les fruits de la chair. Alors, lorsqu'ils croiront pouvoir régler le problème d'Israël, le problème juif, eh bien, ils se détruiront eux-mêmes. Parce que c'est toujours ce qui s'est produit. Quand on a voulu détruire Israël, ce sont les ennemis qui se détruisent eux-mêmes. C'est toujours la même façon. Moi, il y a un verset d'ailleurs qui me fait bien rire dans la Bible. Hein. Ils cédèrent à se tuer les uns les autres. C'est-à-dire que dans leurs histoires, ces ennemis d'Israël, eh bien, il y a toujours ce truc qui fait qu'ils vont à un moment donné se disputer et se tuer entre eux. C'est comme ça. Alors, le psaume 83 dit « Traite-les comme Sisera et comme Jabin, comme Madian. » Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, tous les ennemis d'Israël, traite-les comme Sisera. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est fort intéressant de connaître les traditions juives, relatives à la fin des temps. Vous savez, les juifs connaissent très bien la parole de Dieu. Ils ont 3000 ans d'avance sur nous. Ils ont épluché ça dans tous les sens. Et nous, chrétiens, on les a considérés mis sur le côté. Voilà, il n'y a plus que nous, chrétiens. Mais pas du tout. Le voile qui leur cache le Messie est un voile très fin. Je peux vous assurer. On aura l'occasion d'en reparler si vous souhaitez. Mais parmi les Juifs, il y a des gens qui ont écrit des prophéties dans les 2000 ans qui viennent de se passer ici, qui sont étonnantes. Étonnantes. Et des gens qui ont vu des choses qui se déroulent maintenant. Alors, ici, je voulais vous citer deux, trois trucs. Il y a un juif polonais qui s'est rendu auprès d'un homme qui s'appelle Afet Siaim dans la dernière année de sa vie, en 1933. Et il venait demander au rabbin, c'était un rabbin, s'il devait se rendre en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Donc en 1933, Israël n'existait pas. Et le rabbin lui a répondu, après avoir insisté, il lui a dit que Ishmaël ferait beaucoup de mal à Israël. C'est décrit dans la Torah. Parce que Ishmaël est un homme sauvage, sans possibilité de changer. Alors il dit, qui sait ce que cet homme sauvage, à la fin des temps, fera à Israël ? Alors, Israël se pose la question, est-ce qu'il faut que j'aille en Eretz Israël ? Et là, le rabbin répond, ce n'est pas parce qu'il y a cette crainte qu'il ne faut pas monter en Eretz Israël. Donc les Juifs sont allés en Eretz Israël en sachant très bien qu'un jour Ishmaël allait leur tomber dessus. Et il y a un rabbin qui s'appelle Schmerler qui a raconté quelque chose qui a été écrit, je ne sais pas, il y a peut-être 500 ans, à partir d'un texte midrashique. L'année où le Mashiach viendra, le Mashiach c'est le Messie, hein, les dirigeants du monde se battront les uns contre les autres. Le roi de Perse, écoutez bien, le roi de Perse c'est qui ? C'est l'Iran. Contre celui d'Arabie, l'Arabie Saoudite, les Arabes. Ce dernier se rendra auprès de celui d'Édom, l'Europe, pour prendre conseil. Le roi de Perse détruira le monde entier. Israël prendra peur et tombera sur sa face, des douleurs le prenant comme une femme à l'accouchement, disant « Où aller ? Où venir ?» Dieu leur dira, mes enfants, n'ayez pas peur. Le temps de votre libération est venu. L'ultime délivrance à partir de laquelle vous n'aurez plus à souffrir des nations. Alors vous voyez quelque chose qui a été écrit si longtemps avant. Il nous dit que quand le Machiav va revenir, le roi de Perse, c'est-à-dire l'Iran, mettra le feu au monde. Et si vous regardez les guerres qui ont lieu actuellement, vous vous rendez compte que dans le mouvement islamique, il y a deux grandes branches, les chiites et les sunnites, que la plupart des chiites se trouvent en Iran. Il y a aussi des chiites en Irak. Regardez la géographie. L'Iran, l'Irak, celui qui tient actuellement la Syrie, Assad, est un chiite. Et le Hezbollah au Liban, c'est chiite. Donc vous voyez, ça part de l'Iran et ça suit toute la branche, comme ça, jusqu'à la mer Méditerranée. Tout ça, c'est chiite. Maintenant, prenez les autres, c'est-à-dire l'Arabie, la plus grosse majorité de la Syrie, parce que, attendez, les chiites ne sont que 10% en Syrie. Donc 90% des Syriens. Prenez l'Égypte, et puis tout le tour de la Méditerranée, ce sont les sunnites. Or, les chiites et les sunnites ne peuvent pas se sentir. Mais alors, ils ne peuvent pas se sentir. Et la guerre qui a lieu actuellement, c'est quoi? C'est d'essayer de faire tomber Assad, qui est un chiite, pour que les sunnites prennent le pouvoir en Syrie. Ainsi, ils casseraient le maillon qui va de l'Iran à la Méditerranée. Vous voyez? Donc, cette guerre, qui est-ce qui est derrière? Eh bien, d'un côté, vous avez les Européens, les Anglais fournissent des armes, les Allemands, avec des bateaux, disent aux soldats sunnites, donc ceux qui sont venus combattre contre Assad, disent, voilà, ils sont à tel endroit, ils le voient par des radars. Donc, les Allemands fournissent des informations. Nous, nous fournissons des armes, etc., etc., etc. L'Arabie Saoudite fournit beaucoup d'argent. Et donc, nous sommes impliqués dans cette guerre. Mais en face, qui est-ce qu'il y a? Eh bien, savez-vous qu'il y a pratiquement tous les jours des avions avec des soldats iraniens qui arrivent en Syrie. Voilà. Alors, il y a une guerre qui est déjà engagée, vous voyez, entre les Perses et l'Arabie. C'est déjà engagé, cette guerre. Et on voit tomber tous les pions au fur et à mesure autour d'Israël. Vous verrez que dans quelques temps, je ne sais pas combien de temps, mais ça va être le tour de la Jordanie. Croyez bien que ça va y passer. Maintenant, il y aura peut-être aussi un conflit parce que les sunnites voudraient bien faire tomber le Hezbollah aussi, qui est chiite. Donc vous voyez, il y a déjà cette guerre, et déjà dans cette guerre, il y a quelque chose qui est une dispute phénoménale. Et Israël est pris au milieu de ça. Et Israël, lui, n'a qu'une envie, hein, pour ceux qui sont allés en Israël, je ne sais pas s'il y en a ici, mais c'est un pays, je vous assure, qu'à Jérusalem, à 11h du soir, on est plus en sécurité qu'à Roubaix. Eh oui, c'est comme ça. Et on est en paix. Et nous, ce que nous, on a vu, on peut en témoigner, c'est qu'entre juifs et arabes, en Israël, eh bien, ils s'entendent. Et on nous dit tout le contraire. Alors, nous, on l'a vu. Hein.
Pas dans les quartiers de Jérusalem.
Dans les quartiers de Jérusalem. Quand notre guide nous disait, je vais vous amener chez un gars qui fait du change d'argent, eh bien, il nous amène chez un arabe. C'est un guide juif qui nous amène là. Des choses étonnantes, mais on l'a vu. Alors, ce qu'on nous raconte, vous savez, il faut aller voir. Alors, on se voit se profiler à l'horizon une attaque des Iraniens, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, envers Israël. On voit bien que l'Iran voudrait avoir une bombe atomique. Et toute la région du Proche et du Moyen-Orient est un tonneau de poudre. Alors, je ne vais pas vous parler de... Vous lirez l'article que j'ai pris ici en 2006, qui a été écrit, où toutes ces choses sont prévues depuis longtemps. On ne fait pas une guerre comme ça, par hasard, en 5 minutes. On se prépare depuis des années, des années et des années. Alors, on voit que finalement, ça évolue dans le sens de cette prophétie qui a été écrite par des Juifs. Et Dieu dit, fais-leur comme à Cicéron. Bon. Le lieu dont parle l'auteur de ce psaume, qui s'appelle Asaph, qui était un chanteur du temps de David, eh ben, c'est la vallée de Jisréel. Alors, on y est allé, Véronique et moi, on est allé à la vallée de Jisréel. On est sur le mont Carmel. Et on voit cette vallée qui est une vallée très belle, très large, très verdoyante, extraordinaire. Il pousse des tas de choses là-dedans. Et on voit l'autoroute qui passe aussi. Et puis derrière, un petit ruisseau, derrière l'autoroute. Mais alors c'est loin, hein, c'est loin. On le voit. Et ce ruisseau s'appelle le torrent de Gizon. C'est le ruisseau où Élie est allé puiser de l'eau. Et seulement pour descendre et remonter, je peux vous dire que, bonjour, hein, il fallait qu'il soit costaud. Alors, cette vallée, elle mesure à peu près 35 km sur 25. Et c'est un passage idéal avec le port d'Haïfa. Le port d'Haïfa, c'est un port en eau profonde. Alors, actuellement, il y a un bateau qui mesure 340 mètres dedans. Donc, pour vous dire que c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, là, on peut faire rentrer des armées et ensuite suivre les vallées pour essayer d'arriver à Jérusalem. Donc, ça passe par là, vous voyez. Mais il y a à un moment donné un endroit qui est un peu plus étroit où les armées devraient passer. Et cet endroit plus étroit, c'est un... Pas un défilé, mais c'est quand même plus étroit. Ça s'appelle Armageddon. C'est l'endroit où il y a Megiddo. Hein, et là, c'est un passage plus étroit pour arriver à Jérusalem. Et toutes les armées devront passer là. Alors, c'est pas anodin, hein, tout ça. Voilà. Et c'est dans cette plaine que doit avoir la bataille d'Armageddon. Alors, actuellement, vous avez des esprits de démons. C'est écrit dans l'Apocalypse, hein, Apocalypse 16. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du jour, du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire qu'actuellement, on est en train de monter l'opinion publique des peuples contre Israël afin qu'un jour, on dit ça suffit à Israël, maintenant on va prendre Jérusalem de force. Et donc ce sont des esprits de démons et des esprits de grenouilles, comme c'est écrit, qui veulent rassembler les armées par là. À l'époque où la terre promise a été conquise, cette partie, cette vallée-là, elle était destinée à la tribu de Joseph. Seulement, les deux demi-tribus ont fait remarquer à Josué que cette vallée était déjà occupée par des chars de fer. C'est-à-dire que de tout temps, cette vallée a servi à faire la guerre. De tout temps. À l'époque des juges, Israël a été vendu par Dieu à cause de ses péchés au roi de Canaan, Jabin. Et Jabin avait un chef d'armée qui s'appelait Sisera. Et Israël n'était pas très armé. Mais vous voyez que Sisera avait 900 chars de fer dans cette vallée. Et c'est l'époque de Déborah. Et Israël avait peur d'aller combattre ça. Et il a fallu que Déborah se lève. Et Dieu a envoyé quoi ? Ben, il a envoyé la pluie. La pluie, ça a fait une telle bédouille que les chars de fer ne pouvaient plus rien faire. Le résultat, l'armée de Sisera a été vaincue parce que Dieu a envoyé la délivrance sous la forme tout simplement de la pluie. Il pleut rarement en Israël. Mais quand il pleut, ça, il pleut. Hein? Et vous pouvez être noyé en 5 minutes, hein? Même dans le désert. Hein? Dans le désert, si vous vous promenez dans un oued qui est sec, hein? C'est sec. Hein? Si vous vous promenez dans un oued et tout d'un coup il y a un orage, dans les 5 minutes, vous êtes mort. Il faut sortir très très vite et monter sur un rocher. Le rocher. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, un lieu de délivrance aussi à l'époque de Gédéon. Gédéon, c'était le plus petit de sa famille. Qui aurait cru que Dieu limite à 300 soldats seulement ? 300 seulement. L'armée de Madian s'était répandue dans la vallée de Jisréel. Là où toutes les armées viendront. Comment Dieu a-t-il fait ? Simplement en laissant libre cours aux disputes dans le camp d'en face. Il a simplement laissé les disputes. Ainsi, ils se sont entretués les uns les autres. Madian, qu'est-ce qu'il est dit dans Juges 7 ? Madian, Amalek et tous les fils de Rian étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Donc vous voyez, Dieu toujours a une solution alors que c'est impressionnant. On ne sait pas comment Israël, finalement, une petite armée, comment vont-ils faire devant la puissance mondiale? Eh bien simplement parce que les autres, ils viennent par la chair, donc par la dispute. Et poum, c'est eux qui s'entretuent. Alors, c'est aussi cet endroit-là, l'endroit du mont Carmel. Vous vous rappelez, le Carmel domine la vallée de Jisréel. Et là, c'est le lieu où Élie, le prophète Élie, qui avait prononcé la sécheresse pendant 3 ans et demi, je voudrais dire qu'à cette époque-là, d'un point de vue économique, Israël se portait très bien. Parce que le roi d'Israël s'était marié avec la fille du roi de Tyr, du roi de Sidon, Jézabel. Il avait donc fait des alliances économiques. Et d'un point de vue économique, ça se portait bien. Donc Dieu a frappé l'économie du pays en envoyant la sécheresse. Attendez, 3 ans et demi de sécheresse, il n'y a plus rien qui marche, hein. Il n'y a plus rien qui pousse. Hein. Plus rien qui pousse. Hein. Alors, là, Élie va faire la démonstration de l'incapacité des dieux de Jézabel. Et nous, actuellement, dans le monde, nous sommes confrontés à une multitude de dieux. Savez-vous combien il y a de religions dans le monde ? À peu près 2000. C'est un supermarché de faux dieux en tout genre. Vous pouvez choisir votre religion comme ça vous convient. C'est un supermarché. Il y a une multitude de religions. Seulement, là, à la fin des temps, tous les dieux vont être confrontés au seul Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, qui est le nôtre aussi, parce que nous sommes rentrés dans l'Alliance. Alors, il va y avoir une confrontation. Et vous avez remarqué qu'Ismaël croit que sa religion islamique, c'est la meilleure, bien supérieure aux autres religions, et bien sûr supérieure au judaïsme et au christianisme. Ismaël aime que cette supériorité se voit. Savez-vous que lorsque Ismaël dirigeait l'Espagne, eh bien, quand un non-arabe, non-islamique croisait sur un trottoir un arabe, il devait descendre du trottoir. C'est ça la soumission. Actuellement, la soumission, vous la voyez comment ? Regardez le mont du Temple, deux mosquées en haut, qui se voient très bien, une qui est dorée. Et les Juifs, ils sont en bas. Le mur des Lamentations, c'est en bas. Ils sont en dessous. Vous voyez ? Et ça, ils sont très contents. Mais on reparlera peut-être une autre fois du Temple, etc. Mais c'est intéressant à connaître ça. Alors, la sécheresse d'Israël se termine. Et on va bientôt être arrivé à la confrontation des dieux. Ça veut dire que, maintenant, regardez ce qui s'est produit. Comment les Hébreux, quand ils ont passé le Jourdain avec Josué, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier, qu'est-ce qu'ils ont pris en premier avant de pouvoir prendre le territoire ? Ils ont pris la ville de Jéricho. On a eu l'occasion, nous, de monter sur le mont Nebo, donc en Jordanie, pour voir la vallée du Jourdain. Malheureusement, il y avait du brouillard, mais normalement, on aurait dû voir Jéricho. Jéricho est une ville qui est dans la vallée du Jourdain. C'est une ville où il y a beaucoup de palmiers. Et on l'appelle la ville des palmiers, d'ailleurs. Mais savez-vous que le mot Jéricho signifie ville de la lune ? Jéricho signifie ville de la lune. Or, il faut savoir que le dieu de la lune, adoré par les Babyloniens, se nommait Sin, et que ce dieu était représenté par un croissant sur un manteau que portait le prêtre du dieu de la lune, un croissant dans son dos, et il avait, alors ce prêtre, une longue barbe et ce vêtement. Or, alors attention, ce que je vais vous dire n'est pas biblique, c'est mon interprétation. Hein. Un homme du nom d'Akan, Akan ça veut dire serpent, a pris des objets dévoués par interdit dans Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris, j'ai vu le butin, dit-il, un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, etc. Le manteau, le pays de Chinéar, c'est quoi ? Chinéar, c'est Babylone. Donc, il a pris un manteau qui venait de Babylone. Hein? Par conséquent, peut-être, c'est moi qui dis ça, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Peut-être il avait pris le manteau avec la lune derrière. La ville de la lune. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un manteau, ça représente une autorité. Souvenez-vous, Élie qui frappait l'eau et l'eau s'est fendue avec son manteau. Élisée a pris le manteau d'Élie, il a frappé l'eau, l'eau s'est ouverte aussi. Un manteau, ça représente une autorité spirituelle. Et là, un manteau avec la lune derrière, ça représente une autorité spirituelle. Or, l'autorité spirituelle qui va dominer à la fin des temps, c'est la religion de la lune. Alors, faire tomber Jéricho pour pouvoir prendre la terre d'Israël, Eh bien, ça va vouloir dire faire tomber l'autorité de la lune. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Qu'est-ce que tu racontes là, Daniel? Je vais l'expliquer. Faut pas oublier que les origines de l'islam sont des origines païennes. Et que l'emblème de cette religion, c'est le croissant de lune, en forme de dé, placé sur les mosquées. Regardez toutes les mosquées, il y a une lune, partout. Et on sait que l'origine d'Allah, c'est le dieu arabe Al-Illah, le dieu de la lune, qui était adoré au temps de Mahomet. Je vais vous lire. Oui, mais je vais vous dire des choses. Je vais vous lire l'extrait d'un livre qui s'appelle « Quand le jour et la nuit passeront ». C'est un livre chrétien, hein, que vous pouvez trouver à la CLC, écrit par Ramon Bennett. Et je vous en lis un petit extrait. « Si nous nous rendons en Arabie Saoudite, au berceau de l'islam, nous découvrons sur une place de la Mecque une pierre appelée Kaaba. Selon le Coran, cette pierre avait été construite par Adam et contenait 360 djinns. Les djinns, ce sont des idoles, des anges ou des démons. L'un d'entre eux étant Al-Illah, le dieu de lune des Babyloniens, dont le symbole était la lune croissante. Cette divinité ordonna à Mahomet de détruire toutes les idoles de la Kaaba et Al-Illah, le Dieu, devint Allah, Dieu, et l'islam soumission à la volonté d'Allah. Le symbole d'Allah, la lune croissante, décore maintenant chaque endroit où il est adoré, partout dans le monde musulman. L'islam est la seule religion post-chrétienne et la deuxième religion au monde, ainsi que la religion qui gagne le plus grand nombre d'adeptes, mais l'esprit qui la sous-tend est démoniaque. Alors, bien entendu, et c'est ça la force de l'islam, les musulmans refusent qu'on dise qu'Allah est le Dieu lunaire, d'autant plus qu'il y a des versets du Coran qui interdisent d'adorer la lune et le soleil. Mais l'origine est bien celle-là. Et ce Dieu tombera. C'est curieux, cette semaine, je suis tombé sur une revue qui vient d'Israël, et dedans, il y avait tout un article qui faisait deux pages, et qui disait qu'on voyait, qu'on allait assister à l'effondrement de l'islam. Alors ça peut peut-être vous choquer, ce que je vous dis là, parce que actuellement ça monte, mais attendez, la parole de Dieu nous dit « l'arrogance précède la ruine ». Donc ça va monter, ils vont faire beaucoup de dégâts. Mais un coup, ça va s'écrouler. Et peut-être que j'aurai l'occasion, mais ici j'ai pas ramené, mais j'ai lu moi les prophéties islamiques, parce qu'il y a aussi des prophéties chez eux. Et ils ont eux-mêmes prophétisé la fin de l'islam. Mahomet lui-même, dans une hadith, donc c'est pas dans le Coran, dans une hadith, il a prophétisé la fin de l'islam en une nuit. Maintenant, il faut savoir, pour comprendre l'islam, il faut savoir une chose importante. Le Coran, il a été écrit sur 23 ans, soi-disant des révélations, etc. Les premiers versets sont des versets qui sont plutôt... soft et plutôt gentil. C'est dans les premiers qu'on va dire que les juifs et les chrétiens sont des gens du livre, qu'il faut les respecter, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, Mahomet a été confronté à des juifs en particulier qui se rendaient compte que sa révélation était fausse. Donc, il s'est durci. Et au fur et à mesure, il a fait la guerre. Il est devenu de plus en plus mauvais. Et les versets de la fin du Coran sont de plus en plus méchants. Et c'est là qu'on va parler de tuer tous les juifs et tous les chrétiens. Donc au début du Coran, il faut nous respecter, et à la fin, il faut nous tuer. Alors, il y a une contradiction. Et les musulmans ont dit, eh ben, désormais, ce qui est valable, c'est plutôt la fin, parce qu'il s'est rendu compte que c'était ça. Donc, on voit actuellement se durcir dans l'islam, cette position islamique extrémiste qui veut tuer tous les juifs et les chrétiens. Donc, on en arrive à ça. Alors, maintenant, je voudrais vous dire que le symbole, merci, le symbole du croissant, c'est un très très vieux symbole, très vieux symbole qui est déjà dans l'Ancien Testament, dans la Bible, bien avant que l'islam existe, bien avant. Regardez, dans le livre des juges, « Lève-toi toi-même et tue-nous », ça c'était les rois de Sisera, hein. Car un tel homme, tel est l'homme, telle est sa force. Gédéon se leva, tua Zébac et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Ah, ça veut dire que les chameaux avaient déjà des croissants. Mais pas seulement les chameaux, même les femmes avaient des croissants autour de leur cou. On voit ici un Gédéon. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre. Donc vous voyez que ce symbole est très ancien. Dans Ésaïe 3, 18, on lit « En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. » Il y a plusieurs versets qui parlent des croissants. Maintenant, venons-en à l'histoire d'Élie. C'est très symbolique de voir qu'au temps de la délivrance, au temps de Jézabel, Élie est venu. Et Élie prêchait la repentance. À la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, vous allez voir de plus en plus des gens qui ont reçu et qui reçoivent l'esprit d'Élie. Et qui vont pousser les chrétiens à la repentance. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous regardez le corps de Christ, il est disloqué comme pas permis. Les chrétiens se sont disputés au cours des siècles, ils se sont disputés de mille et une façons, et ça a créé toutes sortes de choses, et on voit qu'il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y aura repentance pour ça, déjà. Parce qu'on ne va pas pouvoir affronter la fin si l'unité ne se refait pas. C'est l'esprit d'Élie qui va agir, parce qu'il va préparer l'épouse. Or, il n'y a qu'une épouse. Il n'y a pas l'épouse catholique, l'épouse protestante, l'épouse ceci, l'épouse cela, ça n'existe pas. Donc Dieu connaît son épouse. Elle est mélangée pour le moment avec la prostituée. Vous avez l'ivraie et le bon blé qui poussent ensemble. Mais il est dit aussi que Élie doit venir préparer Israël. Et Israël va prier et crier, c'est-à-dire qu'il va être mis sous pression. Et ils vont appeler, comme dit la parole, celui qu'ils ont percé. Mais nous aussi, nous allons l'appeler, parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse, l'épouse dit « Viens ». Est-ce que nous disons au Seigneur « Viens » ? Moi, j'ai entendu des chrétiens qui disaient « J'ai pas envie qu'ils reviennent tout de suite parce que je dois me marier l'année prochaine, parce que ceci, parce que cela. » Ah ben, t'es pas prêt, mon vieux. Hein? S'il vient maintenant, eh ben, il te prend. Ou alors, c'est que t'es pas prêt. Bon. Cette vallée-là, c'est aussi la vallée où Saül, le roi Saül, est tombé. Vous savez, ce roi n'était pas selon le cœur de Dieu. Il a obéi à 99%, mais il manquait 1%. Et il a fait la démonstration qu'il ne savait pas suivre Dieu. Il est mort pas loin de Megiddo. De la même façon, le mauvais roi Akasia, époux d'Athalie, la fille de Jézabel, est mort dans ce lieu. Et on constate que cet endroit-là, cette vallée, c'est le lieu de la fin des impies. C'est le lieu où celui qui se fera passer pour le Messie va mourir. Et c'est un lieu qui était convoité par Akab. Vous voyez, il y a dans la ville de Jisréel, on dit la vallée de Jisréel, vallée d'Armageddon. Donc Jisréel, c'est une petite ville là. Et dans cette petite ville, il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Et il avait une vigne. Je vous rappelle que la vigne, c'est le symbole d'Israël. Que les ouvriers de la 11e heure, ils ne vont pas travailler dans la moisson, ils vont travailler dans la vigne. C'est-à-dire qu'ils travaillent au rapprochement entre les Juifs et les chrétiens. Et on voit que Akab, mari de Jézabel, voulait la vigne de Naboth. Et comme il n'a pas pu l'avoir parce que Naboth ne voulait pas lui vendre, parce qu'on ne vend pas la terre, c'est un héritage. En Israël, l'héritage, c'est sacré. Alors, Jézabel va l'aider à prendre possession de la vigne. Et comment, écoutez, c'est important ça. Comment elle va faire? Elle va faire tuer Naboth pour voler sa vigne. Mais comment elle fait? T'es vraiment une mauvaise femme. Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Samarie parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Elle était tout près de sa maison. « Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si ça te convient, je te paierai à valeur d'argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra à sa maison, triste et irrité. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, que ton cœur se réjouisse, et moi je te donnerai la vigne de Naboth. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, mettez-le en face de deux méchants hommes qui déposeront contre lui, « Tu as maudit Dieu et le roi !» Puis menez-le dehors et lapidez-le et qu'il meure. » Donc vous voyez la stratégie? Il fallait deux témoins en Israël. Jésus, par exemple, a pris comme témoin la terre et le ciel. Deux témoins, toujours en Israël. Là, il dit, prenez deux témoins et accusez-le d'avoir maudit Dieu et le roi. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? L'Église, à ce juif Jésus, a dit, Naboth, ça représente aussi Israël, hein, qui a sa vigne. Qu'est-ce qu'on a dit des Juifs pendant 2000 ans? Tu as tué Jésus. Jésus, c'est Dieu et le roi. Et on a monté contre Jésus un procès, et on a monté contre les Juifs ce procès. Vous avez tué Jésus. Vous êtes des meurtriers. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a eu des tas de mouvements pendant 2000 ans qui ont persécuté et tué les Juifs. parce que l'Église s'est comportée comme Jézabel par rapport aux Juifs. Alors, le fait d'avoir fait ça nécessite pour l'Église actuellement une repentance. Et si nous voulons ne pas finir comme Jézabel, nous devons nous repentir pour l'Église d'avoir fait ça. L'Église doit maintenant se réimplanter sur le trône d'Israël. Sur le trône d'Israël. Vous savez, j'aurai peut-être l'occasion, j'ai plein de trucs à vous raconter, mais dans les 7 paraboles du royaume de Matthieu 13, il y a 7 paraboles du royaume. Hein. Vous avez 2 petites paraboles qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Il y en a une, il dit, le royaume est semblable à une perle qui est dans la mer. Et alors, il achète cette perle. Il vend tout ce qu'il a, il achète cette perle. Et puis il y en a une autre, juste à côté, le royaume est semblable à un trésor dans un champ. Alors il achète le champ, il cache le trésor dedans, il cache le trésor, il achète le champ pour pouvoir avoir le trésor. Eh bien vous voyez ça, la perle dans la mer, ça représente les chrétiens des nations, et le trésor dans la terre, ça représente le peuple d'Israël. Les 2 branches de l'olivier. Et on ne pourra pas les séparer. Et ce sont ces 2 branches de l'olivier qui crieront « Seigneur, viens !» Mais si nous ne sommes pas dans l'olivier, et si nous accusons Israël comme font les nations, eh bien nous finirons comme Jézabel. Il doit y avoir repentance. Pour 2 choses, la division et la haine des Juifs. On ne peut pas haïr les Juifs. C'est le peuple de Dieu. Alors, l'Église doit aimer Israël. L'Église et Israël ont un destin commun. Et je termine en disant qu'Israël soit béni. Que le Seigneur vous bénisse.